L'invité culture.
Alors on hésite, tant on recule devant l'évidence de ce monde qui a basculé pour nous Français l'année dernière. On hésite parce qu'on n'a pas envie de se replonger tout de suite dedans, parce qu'on va chercher dans la littérature une échappatoire à l'absurdité de ce monde, tant que c'est encore frais, tant que c'est encore présent. Puis on se dit que pour pouvoir s'en échapper, ne serait-ce que par l'art, il faut le voir ce monde, dans toute son absurdité, et que la littérature nous aide aussi à mieux comprendre ce qui nous arrive, en tout cas à réfléchir sur notre condition humaine. L'écrivain, disait Victor Hugo, est témoin de son époque, et c'est comme ça qu'on se retrouve à ouvrir un roman. Ce vain combat que tu livres au monde, peut-être aussi parce qu'on sait que l'auteur de ce livre, marocain de naissance, ingénieur formé à l'économie en Grande-Bretagne, aujourd'hui professeur de littérature à l'université d'Amsterdam, est un homme dont les écrits et la parole sont toujours piquants. Romancier de langue française, poète de langue néerlandaise, il oscille entre fiction et non-fiction pour prendre à bras-le-corps les grandes questions de notre temps. Bonjour Foy de la Rouille.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin.
Merci pour l'invitation.
En 2006, vous aviez publié un essai qui s'intitulait « De l'islamisme, une réfutation personnelle du totalitarisme religieux ». On est 10 ans après, vous publiez un roman, vous en avez publié d'autres, hein, entre-temps, d'autres écrits bien sûr, mais un roman qui fait écho à cet essai de 2006. Ce roman s'intitule donc « Ce vain combat que tu livres au monde », il est publié chez Julliard. Pourquoi avoir choisi aujourd'hui, 10 ans après l'essai, cette forme romanesque ?
Alors, tout d'abord, l'essai effectivement est sorti en 2006, il vient d'être réédité avec un avant-propos. Et un avant-propos assez curieux où j'explique qu'en fait je me suis trompé en 2006. Donc j'ai dit je me suis trompé parce qu'en 2006 je pensais qu'il suffisait de montrer que l'islamisme est incohérent, que tout ce qu'il raconte c'est un peu n'importe quoi et qu'il allait comme ça s'effondrer de lui-même. Et 10 ans après je me rends compte que le problème n'est pas l'islamisme, c'est pas une question de religion, le problème c'est l'histoire avec un grand H. Et donc j'ai fait un avant-propos dans mon livre sur l'islamisme qui s'appelle en fait « De l'islamisme, une réfutation personnelle du totalitarisme religieux » pour parler d'histoire. Et du coup, j'ai écrit un roman, justement, en me disant que tout le monde ne lit pas forcément un essai un peu sérieux, parfois un peu pesant. Et je me suis dit, la forme romanesque, j'arriverai à faire passer le même message. Non seulement pour tous ceux qui lisent, mais en particulier pour les jeunes, les lycéens, tous ceux qui sont, par exemple, d'origine étrangère, marocaine, maghrébine, mais qui sont français, naturellement. Parce que sous la forme romanesque, je fais passer deux messages, en fait. D'abord, bon, l'inanité de l'islamisme, des fanatismes, tout ça, on est d'accord là-dessus. Mais un autre message qui est quand même un peu plus controversé aujourd'hui, c'est que c'est pas du tout une question religieuse, que l'histoire avec un grand H est un problème.
Vous vous dites, Foy de la Rouille, faire passer un message, deux messages même. C'est vrai que dans ce livre qui est un roman, on entend un certain nombre d'idées, on réfléchit d'ailleurs en lisant votre livre, c'est peut-être l'un des buts, dites-vous, pas seulement pour les jeunes. Est-ce que vous diriez que ce livre comporte, je sais pas, une forme de libelle, de manifeste, ou même peut-être un conte philosophique, type 18e? Comment vous l'avez pensé dans l'alternance entre la fiction et la non-fiction?
Alors, je l'ai pensé comme quelque chose d'hybride, en fait. Donc, les chapitres alternent. Donc, il y a une histoire qui se déroule comme ça au premier plan, avec des personnages, une histoire avec parfois des petits dialogues comme ça, sans trop d'importance. Et puis derrière, il y a la grande histoire du XXe siècle. Et l'idée fondamentale, c'est que nous tous, nous sommes évidemment les produits de cette histoire du XXe siècle. Et c'est pour ça qu'à un moment, par exemple, dans ce roman, on voit apparaître Paul Bremer, qui a été donc le vice-consul en Inde.
L'administrateur, oui.
L'administrateur de l'Irak
après, au moment de la reconstruction en 2003.
Alors, tout à coup, apparaît Paul Bremer. Et je raconte, et il y a un petit lutin dans mon livre qui apparaît de temps en temps pour apostropher, du coup, le narrateur, pour lui dire, mais qu'est-ce que fait Paul Bremer dans ce roman qui se passe à Paris aujourd'hui avec des
oui,
des
vous
jeunes
nous
Français.
Aviez promis un roman, c'est-à-dire voilà. Sur la couverture. Roman, alors, qu'est-ce que vous faites?
C'est
là
ce que dit le petit lutin. Et le narrateur répond, le fait que Paul Bremer ait fait des erreurs monstrueuses en dissolvant le parti Baath irakien, en dissolvant l'armée, etc. Tout ça a conduit d'une certaine façon à l'apparition de Daesh et malheureusement à tout ce qui se passe en France. Donc mes petits personnages qui se promènent rue de Charonne, qui vont à la Bastille prendre un verre, etc. Ben, Paul Bremer est un personnage de leur roman. On ne peut pas écrire aujourd'hui un roman qui se passerait à Paris sans faire entrer dans ce roman, d'une façon ou d'une autre, des gens comme, je ne sais pas, George Bush, Nasser, et moi je remonte même très loin, puisque je fais même entrer Laurence d'Arabie, Lord Balfour, tous ces gens-là, dans le roman. Et donc c'est ça la thèse fondamentale, une thèse peut-être un peu historiciste, c'est-à-dire on ne peut pas faire de roman sans mettre toute l'histoire avec un grand H dedans.
Le canal de Suez, la route internationale de l'Orient ouverte par Ferdinand de Lesseps, a pris soudain la vedette internationale. Voici à peine 2 ans, Nasser et le représentant de la Grande-Bretagne, en signant l'évacuation de Suez, avaient garanti le régime du canal jusqu'au terme du mandat fixé à 1968. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale au mépris de tout droit et de toute légalité. Par ce coup de force qui en rappelle d'autres, Nasser cherche-t-il une issue au dessein des dictateurs ?
1956, hein, le canal de Suez, Nasser, Suez. C'est dans votre livre aussi, Foi de la Rouille,
oui.
Nasser, évidemment.
Et je veux dire, parce que, alors, il y a quelque chose de, qui pour moi est aussi fondamental, c'est ce que j'appelle les deux récits qui s'affrontent. Et pour moi, c'est quelque chose que j'essaie de propager. J'ai écrit quelque chose là-dessus dans Libération, enfin dans des journaux. De quoi il s'agit ? Tout le XXe siècle a toujours été raconté comme un récit européen. D'ailleurs, moi, je suis allé au lycée français, vous savez. J'ai fait ensuite l'école ici des Ponts et Chaussées à Paris. Tout ça, je n'entendais que le récit européen du XXe siècle. C'est un récit européo-américain. Américain, etc. Bon. Mais il y a un récit arabe du XXe siècle que je n'entendais pas, ce qui est d'ailleurs curieux, parce que je suis marocain à l'origine, mais je ne l'entendais pas parce qu'il était inaudible. Mais ce qui se passe, et c'est ça qui pour moi est fondamental, c'est que ce récit est devenu audible. On l'entend. Pourquoi on l'entend ? Pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a les chaînes satellitaires, et je regarde chaque jour, en fait, au moins une heure, Al Jazeera, l'Arabia, toutes les chaînes satellites, mais il y a aussi Internet. Du coup, ce récit arabe, je dirais arabe sunnite, du XXe siècle est devenu audible. Et du coup, on a deux récits qui s'affrontent, comme les plaques tectoniques, hein, qui s'affrontent, qui font des tremblements de terre. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe, et il faut en être conscient, c'est que le récit sunnite arabe est apparu, il est devenu audible, on l'entend n'importe où. Et les deux plaques, les deux récits entrent comme ça en contact.
Ça s'appelle le choc des civilisations, ce que vous nous racontez,
oui,
Paul Larouille.
Mais si vous voulez,
ça s'affronte.
Le fameux choc des civilisations, il estimait que tout cela était inévitable. Moi, je dis ce n'est pas inévitable. Le livre de Huntington, on a souvent dit, je ne souscris pas à cela, on a souvent dit que c'était le Pentagone qui voulait garder le budget de l'armée. Donc, après l'effondrement de l'Union soviétique, il fallait créer un ennemi. Donc, c'était l'islam. Et donc, Samuel Huntington tombe à point nommé pour que le... Bon, on ne va pas faire de théorie du complot, mais en fait, ce qui est très important pour moi, c'est que tout cela n'est pas inévitable. Donc, ce que je propose, et il y a tout un chapitre un peu cuistre, je l'avoue, où il y a une visite d'un des personnages à un professeur...
Extraordinaire, ces pages. Extraordinaire, parce qu'en fait, vous passez en revue, justement, ces deux récits qui s'affrontent, vous les mettez réellement en scène à travers cette rencontre entre le personnage et le professeur, en passant en revue le passé glorieux du monde arabe, tout ce que l'Occident doit au monde arabe, et surtout, à quel point ce qu'on nous raconte ici n'est pas perçu de la même façon de l'autre côté.
Voilà.
Par exemple, les accords Sykes-Picot.
Mais ça explique.
Les fameux accords
aujourd'hui,
1916.
Aujourd'hui, maintenant, on les connaît, mais il y a même 2 ans, il y a 2 ou 3 ans, vous alliez à Paris, vous faisiez un radio-trottoir, même des personnes cultivées, des personnes qui s'intéressent au monde, etc.
On en avait jamais entendu parler.
Qu'est-ce que c'est ça ? Or, dans le récit arabe, c'est le début du malheur, des trahisons du XXe siècle. Mais ce que je dis, et c'est quand même un message d'espoir, même si le livre a une tonalité presque désespérée, surtout vers la fin, mais il y a quand même un message d'espoir, c'est que les deux récits ne sont pas totalement antinomiques, c'est-à-dire on peut s'entendre, on peut se comprendre. Et sur l'histoire, par exemple, des sciences, de l'histoire des sciences, moi j'enseigne à l'université d'Amsterdam et chaque année c'est la même chose. Je donne d'abord un cours, je fais de l'épistémologie, je donne un cours sur l'histoire des sciences, un cours assez amusant où je prends ce qu'on nous dit dans le récit européen, Newton a découvert la nature de la lumière blanche, machin... Tout ça, et je dis, oui, mais 4 siècles avant, Ibn al-Haytham, Ibn Zuhr, Ibn disaient la même chose. Et tout cela, c'est documenté, c'est pas, je n'invente rien, c'est documenté, on le trouve. Et toujours, c'est la même stupéfaction chez mes étudiants néerlandais d'Amsterdam. Pourquoi est-ce que nous ne savons pas cela ? Nous ne savons pas cela parce que nous n'avons qu'un seul récit, qui est le récit européen, alors qu'un récit du monde qui prendrait en compte tous les récits, comme cela, eh ben, ce serait vraiment c'est l'issue, c'est l'espoir, c'est ce qu'il faudrait faire.
Qu'est-ce que ça changerait, Fouad-Laroui? Oui, qu'est-ce qu'on y gagnerait?
Eh bien, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Vous prenez un jeune Français d'origine africaine, nord-africaine, etc. Très bien.
Votre personnage, allez, Ali.
Oui, mais mon personnage est plus compliqué parce qu'il vient vraiment du Maroc, donc c'est un peu différent. Mais prenez un petit Français, mais d'origine, très bien. Il va à l'école, comme je suis allé à l'école française. Il n'entend, par exemple, pour l'histoire des sciences, il n'entend que Harvey a découvert la circulation sanguine, Newton a fait ceci, Lovecraft Croft a fait l'anesthésie. Enfin, il n'entend que des noms européens. Il a l'impression que lui, avec son nom un peu bizarre, et ses ancêtres, n'existent pas, n'ont jamais compté dans l'histoire. Imaginez la différence si il arrivait au cours de sciences, de technologie, et on mêlait, par exemple, des considérations sur Avicenne, sur Farabi, avec Newton et Ibn Haytham ayant découvert avant Newton beaucoup de choses, ce qui n'enlève rien au mérite de Newton, qui, à mon avis,
c'est la question que je vais vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence après à dire, c'est moi le premier, non, c'est moi le premier, non, c'est moi le premier?
Ça a été très mal compris. Il y a des gens qui m'ont dit, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voulez dire? Je ne veux rien dire du tout. Simplement, ce que je veux dire, c'est que l'esprit humain a soufflé un peu partout. Il a commencé avec le fameux miracle grec. Très bien. Ensuite, il a soufflé à Bagdad, il a soufflé à Cordoue. On est remonté vers l'Europe, vers la Renaissance. Il n'y a tout cela, c'est l'esprit humain. Quand je dis que Ibn Haytham est le premier grand scientifique par la méthode expérimentale, ça n'enlève rien au mérite de Bacon. Pour moi, dans mon panthéon personnel, il y a Einstein, Newton, Darwin, tous les trois.
Ils sont juste un peu plus nombreux.
Ils sont dans votre
panthéon.
Voilà,
parce que moi, un peu plus.
À côté d'eux, je mets Ibn Haytham, je mets Biruni qui est quelqu'un d'extraordinaire, je mets des mathématiciens parce que j'ai aussi cette formation. Donc, pour le petit garçon qui est tout à fait français mais qui s'appelle Rachid, imaginez le sentiment qu'il aurait à ce moment-là de n'être pas exclu du récit. On parle de récit national. Je trouve que c'est très important. Et le récit national écrit par Lavis au 19e siècle, tout ce récit national qui fait de bons petits Français, il devrait s'enrichir aujourd'hui. Et on aurait de bons petits Français, mais avec quelque chose d'un peu plus large dans l'arrière-plan. Et avec cette idée que finalement, l'espèce humaine est une et que cet extraordinaire miracle grec, cette conversation entre Platon et Aristote qui est encore la base de toute la philosophie occidentale aujourd'hui, c'est quelque chose de miraculeux, mais qui est parti après à Alexandrie, qui a été récupéré à Bagdad dans la maison de la sagesse, qui est allé à Cordoue, qui est remonté par Padoue et Pise, qui a fait le Quattrocento italien, qui a fait la Renaissance. Mais tout ça, c'est formidable de penser que c'est l'esprit humain, et ce n'est pas les Européens contre les Arabes, ce n'est pas une question de confrontation, de concurrence, pas du tout, c'est inclusif.
Fouad-Laroui, il y a deux récits, nous dites-vous, il y en a une multiplicité au
tout
fond,
fait,
parce que finalement,
en dehors du
fait que
du monde.
Chaque... Ben oui, bien sûr, donc est-ce que ça veut dire qu'il faudrait apprendre cette multiplicité de récits à l'école de la République?
Mais
comment on s'en sort s'il faut aller chercher ensuite les origines chinoises ici ou là? C'est compliqué, hein.
Je vous sens penser vaste programme.
Oui, et je peux vous dire que c'est déjà chargé à l'école, mais j'entends très bien ce que vous dites, mais où est-ce qu'on s'arrête, hein?
Oui, mais il faut au moins dire que ça existe. Par exemple, j'ai étudié à un certain moment les mathématiques, effectivement j'étais en Angleterre, à Cambridge, et puis à York, et puis j'avais des amis indiens, par exemple, parce qu'il y a plein d'Indiens, de Pakistanais là-bas. Pour ce qui est des mathématiques, le récit indien de l'histoire des maths est légèrement différent. Vous savez que la France est l'un des grands pays des mathématiques,
oui,
certes. Mais les Indiens, il y a 1000 ans, 1200 ans, découvraient dans leur coin des théorèmes qu'on a redécouverts par la suite. Pourquoi ne pas au moins indiquer que cela a existé? Mais cela dit, le récit chinois aussi, aujourd'hui, ne fait pas problème. Je parlais des plaques tectoniques qui rentrent comme ça en contact. On n'a pas de problème avec le récit chinois du monde, ni avec le récit indien du monde. Il y a un problème avec le récit arabe sunnite du monde. Ça, c'est le problème aujourd'hui qui fait Daesh, qui fait les problèmes qu'on a. Pour rentrer aujourd'hui chez vous, pour venir vous voir, maintenant, il y a un sas, il y a trois personnes avec des gilets pare-balles, ça n'existait pas. Il y a 10 ans, quand je venais vous voir, je rentrais, bon, j'irais pas comme dans un moulin, mais c'était plus facile. Cette situation aujourd'hui qui est problématique, elle est quelque part, elle est aussi le résultat de cette confrontation entre ces deux récits-là. Si on concilie ces deux récits-là, déjà, on aura fait un grand pas.
La musique de Laurence d'Arabie, le film de David Lean avec Peter O'Toole, qu'on devrait revoir avec de nouveaux yeux quand on a lu votre livre, Foi de la Rouille. Ce vain combat que tu livres au monde. Restez avec nous, on se retrouve dans 2 minutes, juste après les titres du journal de 8h. Suite et fin de notre entretien avec l'écrivain Foi de la Rouille, marocain de langue française et néerlandaise, professeur de littérature à l'université d'Amsterdam, écrivain, poète, et il publie « Ce vain combat que tu livres au monde », un livre aux éditions Julliard qui suit le parcours de 4 personnages, Malika, franco-marocaine, son amie d'enfance Claire, son fiancé Ali qui est ingénieur informatique, son cousin Brahim, le cousin d'Ali en fait, qui est un musulman fondamentaliste. On dirait que c'est l'histoire d'une radicalisation quand même, ce livre, parce qu'il faut quand même dire un mot des personnages. Ils sont pris dans les affres de l'histoire, on a vu ça tout à l'heure, Foi de la Rouille. Ils sont prisonniers d'un passé qui les dépasse et vous écrivez, ils doivent payer le prix des trahisons, des mensonges et des malentendus. Mais il y a quand même leur histoire.
Oui.
Et leur histoire, c'est l'histoire de Malika, c'est l'histoire d'Ali. Ali, ben, c'est un ingénieur informatique de haut niveau. Il est victime d'une discrimination professionnelle du fait de son nom.
Oui.
Tout se passe à Paris. Hein.
Oui, tout se passe à Paris.
Et il sombre dans la dépression, la paranoïa, il se laisse embrigader par son cousin islamiste Brahim et il finit djihadiste à Raqqa. On va de Paris à Raqqa. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a toujours un petit lutin, hein, il y a beaucoup d'humour dans vos livres en général,
Foi de la Rouille.
Il y a un petit lutin là, qui dit, bien, le lutin apparaît dans la bouche de Claire, je crois, à la fin du livre. Attends, c'est pas un peu exagéré. Le gars, Ali, un jour, on lui refuse un job à Toulouse. Un an après, il est chez Ben Laden ou dans l'État islamique. C'est pas un peu exagéré? J'ai envie de vous retourner la question.
Oui, alors c'est quelque chose qu'on m'a d'ailleurs souvent dit ou reproché, comme ça amicalement, en me disant c'est pas très crédible parce que tu prends quelqu'un qui s'appelle Ali, certes, mais qui est totalement francisé entre guillemets, qui est en train de boire des cocktails à la terrasse d'un café rue Charonne avec sa copine, et un an après, il est à Raqqa. Or, c'est vrai, c'est tout à fait documenté. Il y a des cas de radicalisation aussi soudaine, mais justement.
Même une semaine, aujourd'hui
mais
avec les mineurs en particulier.
Mais ça, c'est une de mes thèses fondamentales et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas les voir parce que comprendre, c'est déjà justifié. Vous connaissez cette phrase assez absurde. Mais bon, en réalité, ce que je montre dans ce livre, c'est que d'abord, il y a eu l'incident. Il lui arrive quelque chose de personnel. Ça n'a rien à voir avec la religion. Il sombre dans une dépression. Au lieu de simplement dire, bon, les choses sont comme ça, la vie continue, il sombre dans cette dépression. C'est là qu'il est récupéré par son cousin. Et je montre que le lavage de cerveau qu'il subit très rapidement dans les mosquées n'est même pas religieux, en fait. C'est d'abord un lavage de cerveau qui est basé sur l'histoire, avec un grand H du XXe siècle.
À nouveau, on y revient.
On y revient. Ce qu'on lui dit, c'est que tu as vu ce qui t'est arrivé, eh bien, c'est la suite. C'est la suite de quoi? C'est la suite du XXe siècle, de toute cette série de trahisons et d'humiliations qui commence donc avec Laurence d'Arabie, Saïx Picot, Balfour, qui continue avec Suez en 1956, qui continue avec... Et il lui dit, mais en fait, tu vois bien, donc il y a de l'histoire, d'abord de l'histoire personnelle, hein, Ali, et de l'histoire avec un grand H. Et c'est ça qui
Mais ça veut dire que vous en faites des victimes? Victimes d'une histoire qui les dépasse, justement?
Oui, oui. Là, il faut faire... Évidemment, très attention. Moi, je prétends que si on ne comprend pas, on ne peut pas résoudre. On ne comprend pas un problème, on ne peut pas le résoudre. Hein. Ce genre de radicalisation existe. Et pour ce que vous disiez sur mes personnages, vous parliez des 4 personnages, j'ai essayé de donner la parole à 4 visions du monde, si vous voulez. C'est pour ça qu'il y a 4 personnages. Et on pourrait me faire le reproche qu'ils sont assez schématiques, c'est voulu comme ça. Il y a Claire, qui est la française, l'amie de Malika, qui présente le point de vue qui est le plus proche du mien. Je pourrais dire, Claire, c'est moi. Parce que elle a un point de vue, c'est pour ça, ce vain combat que tu mènes au monde.
C'est la femme libre.
C'est la femme libre, mais c'est la femme qui a accepté, qui est totalement agnostique, qui a accepté que s'il n'y a pas de sens dans ce monde, au moins il y a un goût. Il y a un goût qui est l'amitié, qui est l'amour, qui est ce qu'on mange avec des amis, ce qu'on boit, des grandes randonnées dans la montagne. Il y a un goût de la vie. Et en fait, au lieu de s'obnubiler sur le sens et d'aller même se faire exploser dans une certaine quête du sens, pourquoi ne pas simplement vivre la vie? Donc ça, c'est clair. Alors, il y a Malika qui, elle, accepte la France telle qu'elle est, parce que c'est l'endroit où elle peut s'épanouir le plus. En tant que jeune femme d'origine maghrébine, c'est pas à Jeddah qu'elle va s'épanouir. Et puis il y a le Brahim qui est le fondamentaliste. Et puis il y a Ali dont vous avez parlé. Donc les 4 personnages représentent 4 façons de voir le monde. Évidemment, j'ai une préférence. Ma préférence s'appelle Claire.
Oui, Claire, c'est moi. Vous le dites,
Claire,
oui. On a bien compris. Vous avez dit à plusieurs reprises, ça n'est pas un problème religieux où il ne s'agit pas de religion, mais de politique et d'histoire.
J'insiste là-dessus.
J'aimerais vous faire entendre Salman Rushdie. Mm-hmm. Salman Rushdie qui vient de publier un roman oui, en oui. cette rentrée, 2 ans, 8 mois et 28 nuits, chez Actes Sud. Il était invité d'Europe 1 le 8 septembre. Écoutez ce qu'il dit.
Vous savez, je n'ai pas de théorie générale sur les djihadistes. Je pense que nous vivons à une époque où malheureusement il y a de plus en plus de fanatisme. C'est une grande surprise d'ailleurs pour moi parce que je viens d'une génération... Vous savez, je suis un 68-art classique. J'avais 21 ans en 68. Mais à ce moment, vous savez, il y a 50 ans, même pas, l'idée selon laquelle la religion allait devenir une force puissante était impensable. Personne n'en parlait. Et donc, en 50 ans, on a vu un changement. Clairement un grand tournant et on peut espérer qu'au cours du prochain siècle, on retrouvera un changement. Aujourd'hui, on voit qu'on essaye d'apaiser le fanatisme au lieu de s'ériger contre. Et je pense que c'est tout à fait regrettable. Eh bien, il faudrait tenir ce front. Vous savez, il y a ces valeurs, la liberté. Ce sont des valeurs qui ont été difficiles à acquérir. Cela a pris des siècles et des siècles. Et il faut aujourd'hui faire attention à ne pas les perdre. Mais cela signifie qu'il faut comprendre ce que sont ses ennemis. Il faut tenir le front.
Faut de la rouille.
Oui, alors j'ai deux remarques sur ce que vient de dire Salman Rushdie. Bien entendu, il faut se battre contre le fanatisme. Mais il y a deux choses qui ne vont pas dans ce que vient de dire Salman Rushdie. La première chose, c'est qu'il dit, il y a 50 ans, c'était impensable que la religion allait revenir, etc. Bon, il n'est pas français, mais nous, on sait très bien que Malraux avait prononcé cette fameuse phrase.
On est revenu. Hein, il ne l'aurait jamais prononcé en même temps.
Oui, mais bon. Moi j'ai un complément sur cette
on
histoire.
On est resté avec cette idée.
Oui, mais Malraux disait le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Moi je dis le 21e siècle n'est pas religieux, il est médiocre. Ça, c'est la différence. Il n'est pas religieux, il est médiocre. Ce qui est devenu médiocre, c'est justement le discours religieux. Il y a un discours religieux d'élite, si vous voulez, mais le discours religieux maintenant, bon, alors évidemment, je ne vais pas dire c'est la faute d'Internet, c'est tellement banal de dire cela, mais c'est vrai, d'un certain point de vue. Donc, je comprends l'étonnement de Salman Rushdie, ça m'étonne, mais du coup, lui, il n'a pas fait l'analyse que je prétends avoir faite, c'est que il voit un discours religieux comme si c'était ça la chose qui était en premier. En réalité, moi je dis, c'est parce qu'il y a l'histoire du XXe siècle dans lequel ces deux récits entrent en conflit, et c'est là qu'il y a l'échappatoire. Et je vous donne d'ailleurs une preuve, entre guillemets, bon, je suis mathématicien, c'est pas une vraie preuve, mais disons une indication, c'est que les gens qui se battent aujourd'hui, les gens qui forment l'armée de Daesh, les Irakiens, je parle pas des fous illuminés, des Bretons tout à coup, soi-disant convertis à l'islam, qui vont, ça c'est de la psychopathologie, ça n'a rien à voir, mais les sunnites irakiens qui se battent pour Daesh. C'était quoi ces gens-là? Il y a 20 ans, c'était des gens complètement agnostiques d'une certaine façon. L'Irak de Saddam Hussein était un pays laïque, on le sait. Donc ces gens-là qui étaient laïcs il y a 20 ans, qui buvaient chaque jour leur petit verre d'arak, donc d'alcool, qui se foutaient un peu de la religion, aujourd'hui ils sont dans Daesh.
Le problème existe en France, Foy de la Rouille, vous en avez même fait un roman, hein, ce 20 combats que tu livres au monde. Le problème existe à tel point que on parle de cette génération, ou surtout vous parlez de cette génération perdue qu'il faudrait réintégrer dans le récit européen. Oui. Mais là, à nouveau, deux récits s'affrontent, Foy de la Rouille. Il y a le vôtre qui consiste à dire il faut apprendre les deux récits à l'école de la République. Et puis il y a un autre récit aujourd'hui, qui est celui que porte un certain nombre de nos hommes politiques, hommes et femmes, d'ailleurs aujourd'hui, et puis un certain nombre de nos journaux. Je pense par exemple au Figaro, qui hier titrait sur la contagion de la radicalisation. 1954 mineurs sont signalés comme radicalisés en France. Et le Figaro disait, face à ce fléau, la reprise en main, dans son édito, la reprise en main de notre système scolaire s'avère urgente. Mais on entend bien que ça n'est pas le même récit que l'éditorialiste du Figaro souhaiterait voir dans les écoles de la République. Comment fait-on quand on s'oppose aussi comme ça en France et quand le débat a même du mal à prendre, parce que le débat repose à nouveau sur nos ancêtres les Gaulois et le roman national. Comment s'en dépatouille-t-on, vous qui avez le regard extérieur?
D'abord, il faut une certaine sérénité. Moi j'aimerais bien parler avec l'éditorialiste du Figaro, mais être gens de bonne compagnie, si vous voulez, et je poserai très amicalement quelques questions, justement, est-ce qu'il connaît l'histoire des Arabes? Est-ce qu'il sait qui était Zahraoui, qui était Biruni, qui était Avicenne, etc. Les Lumières, c'est aussi un héritage de Averroès. Et ça, on peut le montrer, on peut le démontrer. Votre éditorialiste du Figaro, il dit, faut reprendre en main l'école. Je veux bien, mais je la reprendrai d'une autre façon. Et je montrerai, je vous donne un exemple très très précis, parce que j'enseigne cela à Amsterdam, et ça a étonné tout le monde, même le maire d'Amsterdam est venu me voir pour me dire est-ce que ce que je disais était vrai. Je lui dis, prenons Spinoza. Spinoza, il y a le livre de Jonathan Israel qui dit que la modernité commence avec Spinoza. Très bien. Or, il se trouve que Spinoza lui-même, dans 1632-1677, vécu à Amsterdam, lui-même avait vu la filiation qu'il y avait entre Ibn Tufayl, qui est donc un philosophe du XIIe siècle de Cordoue, et sa propre pensée. Je résume. Ibn Tufayl, Spinoza, même combat. Spinoza, modernité. Vous vous rendez compte de dire à des jeunes que les plus grands noms de l'histoire de leurs parents étaient en fait sur la même ligne que celle qui a conduit aux Lumières. Ça, ce serait extraordinaire comme message.
Faudelard, oui, vous parlez de ces récits qui s'affrontent et qui pourraient se retrouver. Il y a peut-être un terme sur lequel les deux récits se retrouvent aujourd'hui, c'est le terme de mélancolie. Parce que vous parlez dans le roman de la mélancolie comme du symptôme du monde arabe actuel. Oui. Vous écrivez beaucoup dans les médias marocains. au Maroc, il y a peut-être aussi cette mélancolie dont vous parlez, cette mélancolie en tout cas, on la connaît de part et d'autre de la Méditerranée, on la connaît en France à travers toutes les populations. C'est la mélancolie qui caractérise peut-être ce début du XXIe siècle, peut-être même plus que la médiocrité dont vous parliez tout à l'heure.
Oui, cette histoire de mélancolie du monde arabe, je l'ai prise d'ailleurs dans un texte du psychanalyste Gérard Haddad, elle me semble caractéristique. Si vous voulez, pour en sortir, je vais vous donner un très bel exemple de tentative de réconciliation des deux récits, qui est un opéra. Opéra de John Adams, La mort, The Death of Klinghoffer. Et alors, vous savez que cet opéra, en réalité, c'est pour dénoncer le meurtre abject, atroce de cet homme juif handicapé. Il y avait le détournement, si j'ose dire, de l'Achille Lauro. Et les Palestiniens, qui avaient fait cette prise d'otage, ont jeté par-dessus bord cet homme. Crime odieux, atroce, on est tous d'accord là-dessus. Donc John Adams fait un opéra. Mais à un certain moment, il y a un problème. C'est que l'un des terroristes palestiniens, qui s'appelle Mahmoud, dans l'opéra de John Adams, a une aria très belle, très très belle, dans laquelle il dit « Je n'étais pas né pour être terroriste. Moi aussi, j'aurais voulu vivre une vie normale comme vous. Mais les circonstances m'ont obligé, etc. etc. » Et vous savez que cet opéra de John Adams, il est très difficile aujourd'hui de le monter aux États-Unis. Il y a des gens qui se mettent devant l'entrée et qui disent c'est un scandale. Pourquoi ? Parce que John Adams a essayé de réconcilier, consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien, mais a concilié les deux récits. C'est très difficile, mais il n'y a pas d'alternative.
Merci Fouad Laroui. Ce vain combat que tu livres au monde, où il est beaucoup question de culture et beaucoup question d'humour aussi, peut-être comme antidote à la mélancolie qui nous tombe dessus.
Et à la bêtise.
Merci beaucoup Fouad Laroui. Ce roman est édité chez Julliard.